Interview.
7 mars 2026, depuis Femme en fête à Boulk, avec Claire Blanc. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on m'a glissé que tu étais une sage-femme.
Oui, en retraite, mais je suis sage-femme quand même, parce qu'on est sage-femme toute sa vie. C'est un métier qui nous... Enfin, moi, qui m'habite depuis que j'ai commencé ce métier. J'ai commencé à vouloir être sage-femme en 74. Il y avait les manifs pour avortement libre et gratuit, la contraception libre, à portée de tout le monde. Je faisais des manifs, on était poursuivis par les flics et tout. Je me suis dit, je vais être sage-femme, comme ça je pourrais aider toutes ces femmes à être bien dans leurs avortements choisis. Et puis je me suis retrouvée en stage en salle d'accouchement et là, je suis tombée dans le lien... maternelle, et là ça m'a plus jamais quitté. Voilà, et pour moi cette passion, c'est la passion du lien maternel entre la mère et son enfant. Je m'excuse pour les pères, ils ont un lien paternel, mais celui qui m'a le plus touché, c'est le lien maternel. C'est un truc qui est complètement qui sort de je sais pas où, et cette force qu'elles ont, les femmes, de pouvoir accoucher tout le temps. Elles ont une force en elles qui remonte, je pense, à la nuit des temps, et qu'on se refile de femme en mère et de mère en fille. C'est un truc qui nous habite et qui habite les femmes, et qui est un truc qui, moi, me bouleverse. C'est un truc qui est incroyable, voilà. C'est ça, mon métier.
Tu as dû accoucher beaucoup de femmes, du coup?
Quelques-unes, oui.
Impossible de compter.
Impossible de compter. 42 ans de carrière. Mes enfants, ils ont essayé de compter. Ils sont arrivés à près de 10 000, mais comme ordre de grandeur, ouais.
Je reviens sur ce que tu nous as dit tout à l'heure, qui me paraît, moi, complètement aberrant, d'avoir eu envie d'être sage-femme pour accompagner des femmes dans leur avortement, alors qu'on s'attend justement à l'inverse total.
Oui, mais parce que c'était une telle difficulté à l'époque, c'était avant la loi Veil qui a été votée en 75 et qui autorisait les femmes et du coup à avorter comme elles voulaient. Et du coup, avant 75, les avortements se faisaient en clandestinité, dans de mauvaises conditions, et ça me touchait énormément. Je ne sais pas pourquoi.
Mais par des sages-femmes se faisaient ?
Par n'importe qui. Par n'importe qui, non pas par des sages-femmes, justement, par des médecins véreux qui réclamaient des sous-tables absolument faramineux, qui abusaient parfois des femmes qu'ils aidaient à avorter, ils en profitaient un petit peu trop, et elles étaient dans des souffrances qui n'étaient pas acceptables. Et du coup, je me disais, bah, si je suis sage-femme, je ne savais pas encore ce que c'était que le métier de sage-femme, je pensais que c'était s'occuper des femmes en général, quoi. Et je pensais que je pourrais les aider à traverser ce moment difficile qui est un avortement clandestin. Voilà, je me disais, si je suis dans le métier, je pourrais mieux les aider. Voilà.
T'es aussi sur cet événement, qu'est-ce que tu viens y faire ?
Ah oui, alors sur cet événement, ben d'abord c'est une sorte de femme du village, et on s'entend très bien, et dès que celles qui ont initié ce projet, elles ont commencé à parler d'une journée des femmes, etc., j'ai dit, ouais, super, génial et tout. Et puis je me suis dit, tiens, mais au fait... Qu'est-ce que je pourrais faire, moi ? Qu'est-ce que je pourrais apporter à cette journée ? Et je me suis dit, oui, l'autopalpation des seins, parce qu'il y a des modèles de seins en silicone pour apprendre aux femmes et aux hommes à palper les seins et à détecter d'éventuelles petites boules qu'on pourrait après emmener voir au médecin qui, lui, se chargera du vrai dépistage. De reparler un petit peu de cette période de la grossesse, de l'accouchement et de l'après-accouchement. Ouais, voilà, donc j'avais envie d'aider éventuellement avec des bouquins, une écoute. Si jamais elles ont des questions, alors je suis prête à répondre à n'importe quelle question de toutes les femmes qui viendront poser des questions.
C'est aussi une journée pour parler aussi des violences faites aux femmes. Est-ce que que tu pourrais nous témoigner un peu d'une évolution comme ça sur toute cette carrière de violence? Parfois, on sait qu'il y en a dans la médecine. Enfin, tu parlais tout à l'heure de médecins qui peuvent abuser ou de la libération de la parole.
C'est plutôt ça. C'est plutôt que... je pense qu'il y a toujours eu le même nombre d'abus sur les femmes, mais qu'elles commencent à pouvoir en parler. En début de carrière, moi, jamais une femme ne m'a dit qu'elle s'était fait abuser. Et en fin de carrière, il y en a, petit à petit, elles ont commencé à vouloir le dire, à venir... je travaillais que la nuit. Donc, elles venaient, après avoir reçu des coups de leur conjoint, accompagnées par leur conjoint, qui leur disait qu'il les aimait, sans problème, mais elles arrivaient à nous dire qu'elles avaient eu des coups. Et du coup, on les gardait pour le reste de la nuit, on mettait en place une surveillance... pas vraiment une surveillance, mais un accompagnement. Voilà, un accompagnement pour qu'elle soit mieux entourée. On prévenait les services sociaux. Leur compagnon n'était pas très content, mais on devait le faire. Mais vraiment, il y a une évolution, c'est la libération de la parole, comme tu disais. C'est ça surtout le plus important. Je crois que les violences n'ont pas encore diminué.
Professionnellement, vous avez été amené à être mieux préparé à accueillir ça ou...
Pas du tout. Les 3 ans d'études que je faisais à l'époque, parce que maintenant c'est 5 ans d'études, y compris une année de médecine. Moi, quand j'ai passé mon diplôme, c'était que 3 ans d'études. On n'a jamais été préparé à ça, ni après dans les formations continues. J'ai jamais été préparé à ça. Ceci dit, je me suis arrêtée de travailler il y a 10 ans, donc peut-être qu'entre-temps ça a évolué, je l'espère. Apparemment, la petite sage-femme qui habite, enfin petite, pardon, excuse-moi Juliette.
La jeune
sage-femme qui habite à Boulc et qui travaille à Châtillon, elle a eu des formations spécifiques sur les violences faites aux femmes. Mais moi, j'en avais pas du tout entendu parler par les autorités, juste par les femmes, c'est tout. Et je trouve ça très bien que maintenant, il y ait des formations. Voilà.
Est-ce que toi-même, t'en as vécu ?
Bien sûr que j'en ai vécu, comme je pense 8 femmes sur 10, 9 femmes sur 10, 10 femmes sur 10 de mon époque. J'ai 70 ans et je pense que c'était une époque où on ne le disait pas, où on avait honte, on était sidérés par ce qui nous arrivait et on n'en parlait pas du tout. Maintenant seulement, je commence à en parler à des copines ou même à mon conjoint, j'en ai parlé que récemment, quoi. J'ai subi des abus dans le milieu médical où je travaillais. J'ai eu des abus quand j'étais jeune fille, toute jeune vierge, pas encore au courant de rien du tout. Et puis après, des trucs beaucoup plus anodins, qu'on trouve anodins à l'époque, mais que maintenant seraient moins anodins, style un copain qui passe et qui met la main aux fesses en disant pas que c'est l'époque des pognes. Et maintenant, c'est insupportable, mais à l'époque, c'était admis, quoi. C'était pas terrible. Mais on le savait pas que c'était pas terrible. On savait pas qu'on avait le droit de dire non. On savait pas qu'on avait un corps à défendre. Ma mère, elle m'a élevée en disant faut pas allumer un mec, sinon faut aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, fais ce que tu veux avec ça.
Donc c'était de la méfiance avancée toujours.
C'était de la méfiance, mais c'était aussi savoir que les hommes étaient tous potentiellement des prédateurs. Bon, c'est pas la vérité, hein, ils sont pas tous des prédateurs, Dieu merci. Mais moi j'ai grandi avec cette idée-là, avec cette idée-là, cette éducation-là. Et aussi cette espèce de fatalité, si ça nous arrive, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est comme si c'était dans les gènes.
T'es prévenu, quoi.
Ouais, voilà. Et une nana qui se faisait violer, mais elle avait qu'à pas s'habiller avec des jupes, elle avait qu'à pas, qu'à pas rouler ses cigarettes à la main, elle avait qu'à pas avoir une certaine allure, etc. Quoi. En gros, c'était bien fait pour elle, quoi. C'était dur, hein, quand même. Hein. C'est maintenant que je me rends compte que c'était dur, mais sur le moment, c'était tellement admis que... Mais j'en suis dégoûtée encore maintenant. Quand je réfléchis à avant, ça me dégoûte de voir que c'était à ce point-là admis. Oh là là.
Et c'était même admis pour vous, femmes ?
Mais oui, c'était... Même si c'était pas bien, c'était... on se taisait, puis c'est tout, quoi. Voilà. Et on passait à autre chose. On retournait travailler comme si de rien n'était. Voilà, on n'était pas très battante, hein, combattante à l'époque. Hein. On exagère, on aurait dû se méfier. Être... Moi, je remercie toutes les filles qui ont fait le mouvement MeToo et compagnie, parce que c'est elles qui ont libéré tout ça, quoi. Moi, j'ai pas réussi à libérer aucunement, à rien libérer, quoi.
Même des grandes périodes comme 68, ça n'a pas...
Ah non, ça n'a pas suffi. Non, non. Non, non, c'était autre chose. C'était complètement autre chose. 68, c'était pas du tout sur la libération de la femme. Après, il y a eu le mouvement, le MLF, Notre Corps Nous-Mêmes. L'arrivée de la pilule accessible à toutes les femmes, c'était après 75, après la loi Veil. Et là... c'était un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que du moment qu'on prend la pilule, ça veut dire qu'on peut coucher, quoi. Et si on couche pas, on est nul. Voilà. On prend la pilule, donc on peut voilà. À l'époque, il n'y avait pas les MST comme maintenant aussi répandus. Il y en avait, hein, mais c'était pas aussi répandu. Et on se protégeait pas des MST, il fallait se protéger de la grossesse. Donc dès qu'il y a eu la pilule, on pouvait coucher. Et si on couchait pas, je te dis, on était considéré comme nul, quoi, par nos copines aussi, hein. C'était dans l'air du temps aussi, on prenait la pilule, alors on couchait. Oh, quand j'y pense, mon Dieu, c'était pas bien. J'étais peut-être un petit peu trop loin, un peu intime, mais en tout cas, t'as réussi à me faire parler de choses que j'ai pas trop dit à tout le monde, hein.
Ça fait du bien de l'entendre dire.
Et ça fait du bien de le dire aussi, je te remercie beaucoup.
Merci à toi.
When I ask you to, you just... Margot Judali, bonjour.
Bonjour.
On se retrouve aujourd'hui sur ce festival Femmes en Fête à Boulk pour une proposition d'atelier qui a été faite ce matin en deux temps, j'ai compris, adultes et adolescents, par l'association Des Zébrés. Est-ce que déjà tu peux nous présenter l'association et puis après les ateliers que tu proposes et comment ça s'est passé ce matin?
Oui, alors en plus je suis un peu là avec deux casquettes, donc je vais commencer par la première, du coup avec l'association Des Zébrés, qui est une association pour revendiquer un peu l'écoute du corps, des cœurs, de tout individu de 2 à 99 ans, notamment sur les thématiques du corps, de la sexualité, de l'émancipation, et de manière beaucoup plus large, tout ça, ça va toucher aux violences systémiques, violences sexuelles, intrafamiliales, raciales, etc., etc. Il y en a tout un panel, je ne vais pas m'étaler là. Donc ça, c'est l'activité de Des Zébrés, avec vraiment l'élément phare qui est une bibliothèque mobile. On se retrouve tous les deuxièmes vendredis du mois à la Cancaille, à Luc, voilà, où les gens peuvent emprunter des livres. Ils ont une adhésion à l'année et puis je reviens tous les mois et ils peuvent changer de livre et moi, je les conseille, etc. Donc ça, c'est l'activité phare. Je parle de ça parce que ça va en lien avec l'atelier que j'ai proposé ce matin. Donc effectivement, il y a deux ateliers, un atelier pour les enfants, les ados, autour de la thématique du consentement. Voilà, c'était une demande pour cette journée, de cet événement, de parler de ce sujet-là. Que dire de plus, puisque c'est des ateliers qui sont confidentiels, en tout cas pour les personnes, mais l'idée, c'est de venir questionner notre rapport au consentement, notre compréhension de ce que c'est le consentement, qu'est-ce qu'on en fait, puis comment ça se traduit dans le quotidien, avoir des petits outils, savoir où on est, comment ça se passe dans mon corps, comment je peux me faire respecter, comment je peux écouter les autres.
Est-ce que tu as une trame d'animation d'atelier ou tu fais en fonction vraiment des gens qui arrivent et ça se co-crée? Comment ça se passe, sans rentrer dans les détails, mais entre toi, ce que tu proposes ou ce que tu prépares ou les ressources que tu as et puis un petit peu la découverte de propositions des personnes qui viennent à tes ateliers?
Alors, c'est une bonne question, ça. Oui, j'ai une trame que je prépare en amont. Moi, ce que j'aime bien à chaque fois, c'est allier à la fois la réflexion et la mise en corps. Disons que j'ai l'impression qu'on apprend par l'expérience, du coup, d'être dans le corps et de vivre des expériences qui sont même parfois des expériences simplement cérébrales. Mais en fait, ça marque plus que d'écouter une personne qui fait une conférence. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. Du coup, c'est pour ça que ça s'appelle des ateliers. C'est que les personnes sont actives. Voilà, et que moi, je me situe au même endroit que ces personnes-là dans la réflexion. Et moi, j'apporte ces outils, des outils que j'ai. Tout ce que je propose, c'est des outils où les gens peuvent s'en resservir derrière, les partager. Y a rien... À cet endroit-là, il n'y a rien de confidentiel. Au contraire, plus on en parle et mieux c'est. Et pour répondre à ta question, ben, j'ai cette trame. Et ce matin, avec les ados, j'avais ma trame, mais en fait, je suis un peu partie en freestyle avec ce qu'ils étaient, comme ils étaient, l'énergie qu'ils avaient. Et je pensais faire plus de trucs où j'allais parler. Et en fait, on a fait beaucoup de jeux de rôle. Je me suis laissée aller à des trucs. Et donc, c'est vraiment avec ce que j'ai dans mon bagage. Je suis aussi formée au Théâtre Forum et souvent, je pioche des fois des petits outils là-dedans. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une trame, mais je me laisse aussi aller avec la spontanéité de ce qui se passe à ce moment-là.
Les ateliers avec les adolescents, c'était une tranche d'âge fixe? Tu avais choisi quoi comme fourchette?
Alors, au départ, j'avais envie des 12-17 ans. Et puis j'ai ouvert à 10 ans en me disant que j'avais pas envie que ça freine pour des enfants. Au final, l'atelier était complet, j'ai même poussé mon nombre limite et il y avait même encore une liste d'attente. Donc je me dis, à l'avenir, j'aurais pu faire un petit 10-14 et 14-17 où on n'aborderait pas tout à fait les mêmes choses aussi.
Là, tu parlais de complet, ta limite pour arriver à mener des ateliers qui soient assez... bénéfique pour chacun, chacune, c'est combien de participants ou participantes?
Plutôt 12 personnes. Au-delà de 12 personnes, en termes de qualité, puisque moi, ça me demande d'être à l'écoute de ces personnes, de ce qui se passe, du partage. 12, c'est vraiment un maximum. Et là, j'ai poussé à 14 pour les ados parce que j'ai été un peu gourmande. Mais je ne regrette pas du tout, c'était super. En fait, l'idéal, souvent, c'est entre 8 et 10 personnes parce qu'au moins, les personnes ont vraiment un espace de discussion. Mais voilà, j'aime me dire que je peux faire jusqu'à 12 et du coup, quand ça remplit 12 personnes, je prends les 12 personnes, quoi.
Est-ce que tu es à l'affût de la question du confort des participants et des participantes suivant les ateliers en mixité ou en non-mixité? Et est-ce que tu fais l'un ou l'autre ou les deux?
Alors, je t'avoue que dans tout ce que je fais, parce que je disais, j'ai deux casquettes, je suis aussi consultante parentale, du coup l'atelier que j'ai fait pour les parents, c'était avec ma casquette de consultante mélangée à l'activité de Dézébré. Ça, c'est, j'aime bien faire des gros mélanges, moi. Et du coup, je t'avoue que là, chez les ados, c'était très mixte. Et j'avais pas demandé, on m'avait demandé est-ce qu'on fait en non mixité. Moi, ça m'allait très bien que ce soit mixte dans un premier temps, puisque là c'était vraiment explorer cette thématique. Peut-être que si on en refaisait un en entrant un peu plus dans des sujets plus profonds, ce serait intéressant et sécurisant que ce soit en non mixité. Après, j'ai une vraie question, moi en tant que femme cis. Comment animer un atelier pour les ados qui se ressentent garçons, quoi. Avec moi, ma place de femme cis, ça c'est un vrai questionnement que j'ai, que j'ai pas encore de réponse à ça.
Et on te connaît, enfin nous, la radio et le 101.7, on te connaît comme animatrice et participante de Café Parents. Est-ce que les Cafés Parents que tu proposes durant l'année avec le 101.7, ça s'apparente un petit peu à ce que tu as proposé ce matin, ou de quelle manière ce matin c'était un petit peu différent par rapport à l'événement Femmes en Fête, et peut-être aussi à la proximité de cet événement avec demain la Journée internationale des droits des femmes?
Alors, plein de questions dans ta question. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, que les Cafés Parents sont vraiment un espace de discussion où je vais nommer une thématique et on va discuter autour de ça, mais je ne prévois pas je partage pas des outils, je les invite pas. On est vraiment plus sur de la discussion. Donc, c'est vraiment des moments où je vais écouter les personnes et on s'écoute les unes les autres. Or là, c'est vraiment sous le nom d'atelier, c'est ça la différence, où l'atelier, il y a vraiment une participation et effectivement qui est liée à une thématique précise où je vais pousser la thématique, alors que dans des cafés, je ne vais pas forcément pousser, je sais un peu ce que j'amène et voilà. Donc ça, c'est très différent. Et par rapport à la journée du 8 mars, donc oui, là, c'est ce qui m'a été demandé. L'envie était donc par cet événement de faire quelque chose autour de voilà, la place des femmes. Moi, dans ce que je propose, c'est toujours voilà, la place de l'individu en tant que tel et comment on permet à cet individu d'exister comme il souhaite exister. Et du coup, il y avait cette envie du consentement qui semble être très présent, puisque aussi, qui dit la journée des droits de la femme, sont aussi comment on va valoriser ces personnes-là, les respecter, et qui dit les respecter, dit consentement, qui amène aux violences sexuelles, etc. etc. Donc c'est toute une pelote de laine qu'on pourrait... D'ailleurs, qui n'est pas trop une pelote de laine, c'est pas tout doux, c'est plutôt abrasif, mais voilà, donc c'était vraiment une demande des organisatrices, aujourd'hui, de faire quelque chose sur le consentement.
Tout à l'heure, tu parlais du Théâtre Forum, tu disais que tu t'en servais pour ce genre d'atelier. Est-ce que tu peux représenter aux auditeurs, aux auditrices, ce qu'est le Théâtre Forum, le Théâtre de l'Opprimé, et en quoi ça te sert sur ces sujets à pouvoir animer des ateliers?
Dans le Théâtre de l'Opprimé, il y a plein de formes de théâtre, dont le Théâtre Forum. Il y a du théâtre image, voilà, donc je sais pas, ce serait très long de tout détailler, mais du coup, le Théâtre Forum, c'est vraiment un théâtre revendicatif, si on peut dire, où on va exposer un sujet qui est réel. On ne va pas se faire un truc intellectuel qu'on invente de je ne sais pas qui, Micheline, machin. L'idée, c'est vraiment d'exposer une situation qu'on a vécue, dans laquelle ça a été insatisfaisant et où on aurait envie de trouver une solution. Et du coup, l'idée, c'est de partager ça au collectif qui est présent. Et ensemble, en fait, on trouve des solutions qui vont nous donner un pouvoir d'agir pour l'avenir, en tout cas amener des réflexions de ça. Donc c'est vraiment, le Théâtre Forum, ça s'encadre. Moi, j'aime bien dire que c'est un outil hyper puissant, que plein de gens peuvent s'en emparer, mais ça demande de se former, pas en tant que tel faire des grosses formations, mais... En fait, c'est un outil qui peut aussi être dangereux selon comment c'est mené, puisque l'idée, ce n'est pas de renforcer les oppressions, mais plutôt de soutenir les personnes qui sont opprimées et trouver des solutions ensemble. Donc voilà, ça, c'est pour ce qu'est le Théâtre Forum. Et comment je m'en sers, c'est qu'en fait, dans tous les sujets que j'anime, puisque c'est un peu une passion d'être... dans la défense aussi des minorités. Moi, en tant que femme cis et mon vécu fait que j'ai beaucoup envie de parler des violences faites aux enfants et des violences faites aux femmes. Et donc, souvent, je pioche des outils dans le Théâtre Forum, puisque pour moi, c'est des sujets où derrière, il y a de l'oppression, de la domination. Donc pas dans tous les sujets, mais c'est surtout que dans le Théâtre Forum, il y a plein de tout petits ateliers, tout petits jeux, et qui mettent en corps, et qui, moi, je m'en sers énormément. Voilà.
Tu parlais de ressources bibliographiques, d'une bibliothèque que tu amènes avec toi. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as amené des livres ? Est-ce que tu as un stand pour sensibiliser à certaines lectures les participants à cet événement ?
Alors malheureusement, les personnes qui ont organisé l'événement n'ont pas eu des finances suffisamment grandes pour permettre ça, puisque bon, moi, Dézébré, c'est énormément bénévole. Et quand c'est des... voilà, j'essaye petit à petit quand même de retomber un peu sur mes pattes. Et donc voilà, ça a été un choix avec l'organisation de préférer d'avoir deux ateliers et pas les livres. Et du coup, c'est ce que j'ai dit aux participants et participantes à chaque fois, de voilà, rendez-vous à la Cancaille les deuxièmes vendredis du mois. Et je vois que ça a intéressé des personnes. Donc voilà. Sinon, ça aurait existé s'il y avait eu plus de finances. Et l'idée, c'est qu'il y en a un petit peu pour tout le monde, toutes les personnes qui viennent intervenir sur cette journée, quoi.
Deuxième vendredi du mois à la Cancaille, Grand Rue à Luc.
Pardon, excusez-moi, de 10h à 13h.
Et sinon, est-ce que tu as d'autres contacts pour animer des ateliers ou pour te retrouver autour de cafés parents ou de bibliothèques itinérantes ?
Eh bien, par email au dézébré, dezebree, @riseup.net, riseup.net, hyper facile à retenir. Et donc ça, c'est pour Dézébré. Et en fait, comme je gère pas mal Dézébré, si vous contactez Dézébré, bah derrière, il y a la consultante, pareil. Voilà, mon nom, c'est Margot Judalet. Et du coup, en tant que Dézébré, on finit par tomber sur moi, puisque nous sommes deux à gérer l'association.
Est-ce que tu aurais une parole libre à partager avec les auditeurs, les auditrices ?
Eh bien, le truc qui me vient tout de suite maintenant, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et tous les ans, je me le dis... Ouah, je suis née le 7 mars pour être opérationnelle pour la journée du 8 mars. Je crois que je me dis ça tous les ans, ça me fait du bien de me dire que quelque part, mes revendications étaient comme déjà inscrites. Je me raconte ça, c'est une histoire qui me fait du bien. Et souvent, c'est vraiment un moment où j'ai une énergie assez déterminée. C'est ce que je me dis depuis ce matin, j'ai l'impression de péter le feu, mais c'est parce que ça... Parce que je pense que c'est important d'avoir de l'énergie pour traverser tout ça. Mais pour moi, c'est pas que demain, ça, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Mais disons que là, c'est un moment où on met un peu plus le focus. Pourquoi pas ? Et moi, je sais que j'œuvre là-dedans dans mon quotidien, quoi. Voilà. Et est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose ? Plus de l'ordre d'organisation, c'est que tu as parlé des cafés parents avec l'espace social. Cette année, on a transformé un peu ça. Ce ne sont pas des cafés parents cette année, c'est des ateliers qu'on propose aux écoles, aux parents d'élèves. Donc c'est dans les écoles. Voilà. Et du coup, il va y en avoir une petite dizaine là jusqu'à décembre qui vont exister. Mais je trouvais ça important parce qu'il y a des parents qui m'ont dit « Ah, c'est quand les cafés parents ?» Je dis « Bah, cette année, on a fait une pause, on a essayé un autre format pour faire connaître un peu plus l'activité. Voilà.
Merci beaucoup Margot de partager la fougue de ton anniversaire tous les ans autour de la journée des droits des femmes. I met so many men making choices for me. Every time I feel free, but I run from me. Causing me pain and confusion, taking away my freedom, forgetting my goals. Need to admit they were stealing my mind. Too many losers robbing my heart. I wanna bring these rules and I choosing my way, choosing my taste, choosing to succeed, accepting to fail. I need no man to be alive, no man to be a woman, no man. Reaching my destination without a man's opinion. Say it loud, mama, go say it loud. Say it loud, mama, go say it loud. How do that feel, man, to be useless when you see the superwoman I am? Get up, get away, cause I know you won't change. You behave like a child while I need a man. So play with your toys, baby, you'd better go home. Get up, get away, cause I know you won't change. You behave like a child while I need a man. So play with your toys, baby, you'd better go home. Oh, you'll never be a man and you'll never be mine. I don't give a damn if you really got to leave, for I never care and I never will. But freedom means more than you see. You'll never be a man and you'll never be mine. I don't give a damn if you really got to leave, for I never care and I never will. But freedom means more than you see.
know. Get up, get away, 'cause I know. Get up, get away, 'cause I know. Oh, get up, get away, 'cause I know. Get up, get away, 'cause I know. You want me to behave like a child while I need a man, so play with your toys, baby. You'd better go home, honey. Get up, get away, 'cause I know. You want me to behave like a child while I need a man, so play with your toys, baby. You'd better go home, honey. Get up, get away, 'cause I know. You want me to behave like a child while I need a man, so play with your toys, baby. You'd better go home. Get up, get away, 'cause I know. You want me to behave like a child while I need a man, so play with your toys, baby. You'd better go home. Get up, get away, 'cause I know. You want me to behave like a child while I need a man, so play with your toys, baby. You'd better go home. Get up, get away, 'cause I know. You want me to behave like a child while I need a man, so play with your toys, baby. You'd better go home.
Femme en fête à Boulk ce 7 mars avec Isa, salut.
Salut.
Qu'est-ce que tu fais toi ici?
Eh ben moi je suis coiffeuse et maquilleuse et j'ai envie d'embellir les femmes.
Donc t'as amené de quoi coiffer des gens là?
En fait on va faire un petit atelier tresse, on va apprendre, enfin je vais faire une petite démo et après je vais demander en binôme de se mettre les unes avec les autres et d'apprendre à se tresser.
Tu fais partie des femmes de Boulk donc qui sont dans cette organisation, tu coiffes ici?
Je coiffe un peu partout. Moi, je suis une coiffeuse nomade. Et en ce moment, ouais, pour l'instant, je suis posée à Boulk. Mais je coiffe à Die, je coiffe un peu partout.
À domicile?
C'est ça, exactement. Ouais, exactement.
Depuis combien de temps?
Je suis coiffeuse à domicile ou je suis coiffeuse?
Les deux.
Les deux, voilà. Coiffeuse, je pense que ça va trop dire mon âge. Non, je plaisante. Ça fait une vingtaine d'années que je suis coiffeuse. Et ici, ça fait un an et demi. Par ici, ça fait un an et demi. De retour après des années à Londres. J'ai passé 15 ans londonienne à m'éclater, à m'amuser, à faire des folies dans la coiffure. Et je pense que ça, enfin voilà, c'est quelque chose que j'offre maintenant ici, en milieu rural. C'est chouette.
Retour parce que tu étais d'ici?
Ouais, moi je suis d'ici à l'origine. Je suis partie en Bretagne vers 8 ans, un truc comme ça. Et je me suis expatriée. Enfin, j'ai migré. Je suis une migrante, je ne suis pas une expat, je suis plutôt une migrante. Et je suis partie migrer en Angleterre et j'ai appris à devenir adulte là-bas. Et c'était chouette.
Qu'est-ce que tu as vu de différent sur le territoire à ton retour?
Ça dépend, vous avez combien de temps? Au retour, j'ai vu certaines dégradations au niveau de la santé. J'ai été très 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 choquée en retour en France. J'avais une idéologie d'il y a 20 ans du système de santé française et il s'est complètement écroulé. Et ça, c'était très très triste. J'ai vu beaucoup d'avancements dans l'éducation. Ça m'a beaucoup touchée parce que vraiment, j'ai un cadeau dans la vie, c'est d'avoir eu mes enfants en Angleterre. Au niveau des accouchements, j'ai eu mes deux enfants en piscine, à la maison, avec des sages-femmes. C'était vraiment des cadeaux. Ils nous proposaient ça, parce que ça coûte moins cher à l'État que de vous avoir en hôpital. Et ça, c'était un cadeau. Et d'avoir en fait un pays qui a beaucoup plus d'avancées au niveau des non-violences éducatives et qui a vraiment mis en place l'éducation non-violente depuis longtemps. Et donc, en revenant en France, j'étais très anxieuse. Je ne faisais pas du tout confiance à l'éducation française. Je ne faisais pas du tout confiance aux gens par rapport à l'éducation française. Après, il dit, ouais, c'est quand même un milieu très particulier. Il y a quand même beaucoup de conscience. Moi, je vois énormément de différences entre mes amis en Bretagne et mes amis ici, au niveau de l'éducation, au niveau de la prise de soins de l'enfant, au niveau de faire attention à l'enfant et aux droits de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en Angleterre et que ça me touche de voir que ça arrive enfin aussi en France.
Là, c'est la journée pour parler en tout cas des violences faites aux femmes, mais aussi du coup aux enfants. Mmh. En tout cas, vous avez choisi de faire ça aussi sur cet événement. C'est là ton entrée ou est-ce que tu fais partie des femmes qui ont aussi eu des violences?
Eh ben non, moi je suis une de ces femmes dont il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la chance de pas trop souffrir de ça.
Pas trop.
Ouais, pas trop. Bah oui, évidemment. Est-ce que vous connaissez une femme sur Terre qui s'est pas fait siffler dans la rue, qui s'est pas fait bousculer gentiment dans le métro, par une petite main aux fesses. Donc non, évidemment, il y a pas de, je ne connais pas de femme dans mon entourage qui n'a pas vécu de violence ou de non-consentement. Je sais simplement du non-consentement. Mais j'ai eu la chance de ne pas vivre plus que ça. Et je me rends compte, en fait, dans ces journées, dans ces rencontres, que c'est minime, en fait. On n'est pas beaucoup. On a vraiment beaucoup de chance de ne pas avoir vécu ça. Et pour moi, dans cette journée, ce que j'avais envie, c'est qu'on prenne soin. Qu'on prenne soin de nous. Que j'avais envie de partager mon soin. En fait, j'aurais pu faire un show d'une coiffure incroyable, j'aurais pu couper les cheveux, faire une coiffure londonienne, mais c'était pas le but. Moi, j'avais envie qu'on partage, j'avais envie qu'on se connecte, et j'avais envie qu'on se fasse du bien les unes les autres. Et je pense que de créer des événements comme ça, c'est célébrer la prise de soin. Et pour moi, la réparation, c'est prendre soin, c'est voir, c'est câliner, c'est faire du bien là où il n'y a pas eu, avec le consentement évidemment.
Est-ce que tu peux trouver une légitimité à donner du soin sur quelque chose que tu n'as pas totalement vécu? Et je te la pose à toi parce que on peut imaginer que beaucoup de gens, malheureusement, et y compris les hommes en fait, surtout les hommes peut-être, n'ayant absolument pas conscience, mais se retrouvent quand même dans des situations de, des fois, être le soignant.
Alors écoute, moi je crois que je ne peux pas comprendre. Jamais je prétendrai comprendre ce que c'est de vivre ces choses-là. Par contre, je peux empathiser. Je peux empathiser, je peux proposer un soin vers une connexion, vers avoir envie de donner la place à ces paroles, d'avoir envie d'embellir des femmes abîmées, d'avoir envie de partager mon amour et mon don, entre guillemets, pour essayer de les faire se sentir en vie, les faire briller, leur donner une place. Et je crois que c'est là que les hommes pourraient être.
Comme toi, tu l'es.
Oui. Après, je peux peut-être comprendre un petit peu plus. Je suis mariée à un Albanais et je déteste quand les gens me disent « Ah mais oui, je comprends ce que c'est d'être un migrant. » C'est pour ça que je disais que j'étais une migrante en Angleterre parce qu'en fait, être un expat, c'est déjà se mettre sur un piédestal. Mais je ne prétends jamais comprendre ce que c'est d'être un migrant. Entre l'empathie et la compréhension, c'est la tête et le cœur. On empathise avec la tête. Le cœur, c'est quand on comprend. C'est quand on a vécu. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on s'accroche à l'empathie, on a envie d'être dans l'empathie, on se rapproche de prendre soin. À partir du moment où on oublie qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vécu, on devient arrogant.
Du coup, embellir les femmes, certaines femmes, justement, vont avoir un comportement de rejet, mais même quelque chose de très corporel qui va enfermer complètement quand on a vécu quelque chose de très violent. Et ça paraît même presque antinomique. Enfin, on n'a plus envie de plaire, du coup. Comment est-ce que tu ramènes finalement les personnes à se dire, bah, fais-toi peut-être toi-même plaisir, enfin je sais pas, j'invente les réponses.
Eh bien écoute, je crois que c'est quelque chose que j'aime énormément dans la coiffure à domicile. Parce qu'en fait, on est dans l'intimité. C'est un lien qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus vite. Surtout quand je vais chez les gens. Quand ils viennent chez moi, c'est différent. Mais on n'est pas en public, on n'est pas comme dans un salon de coiffure où il y a du public autour. Et donc, ça nous permet de... Après le tracteur, ça nous permet, en fait, si elles ont envie de trouver un espace où elles vont pouvoir se dire « je prends soin de moi », mais pas en public. Parce que souvent, il y a un problème de légitimité, il y a un problème d'assumer. Et quand on le fait dans le cocon de la maison, et ben en fait, très souvent, il y a plus d'ouverture, il y a plus de connexion. Et moi, c'est vraiment, vraiment là que j'aime être. Quand je coiffe, je prends très très rarement moins d'une heure, une heure et demie à faire une coiffure. Parce qu'en fait, pour moi, c'est de la connexion, en fait. D'essayer de comprendre. Après, ça vaudrait le coup de demander à quelques-unes des femmes que j'ai coiffées pour savoir ce qu'elles en pensent.
Oui, parce que j'allais justement te poser cette question. Est-ce que tes clientes te prennent toi parce que tu peux passer plus de temps, qu'elles se sentent moins à la chaîne, et donc qu'il va y avoir peut-être cette possibilité d'intime ?
Je peux pas répondre. Je ne sais pas.
Et tu sens pas que des fois, ça pourrait être ça ?
En fait, ce qu'on me répète tout le temps, c'est « Oh là là, mais t'as vraiment pris soin de moi ». Et je pense que d'avoir le temps, en fait, ça permet à la personne de se sentir légitime, de se sentir accueillie dans un salon de coiffure où il y a une demi-heure par rendez-vous. On va juste se faire du bien dans le physique. Quand on a une heure et demie, on peut se poser, on peut se connecter, on peut... Et donc, je pense que oui, ça se fait naturellement. Mais comme ça fait pas très longtemps et qu'en fait je travaille, mais j'ai pas trop envie de travailler. Je le place comme ça quand même.
Ne m'appelez pas.
C'est un peu ça là en ce moment. En fait, je veux pas travailler à la chaîne. Donc je veux pas arriver à un niveau où en fait je dirais non. Je dirais non, où on prendra des rendez-vous plus loin. Mais c'est important pour moi que ça reste connecté. Parce que pendant mes 15 ans à Londres, on a eu un barbier, un salon homme, où on passait 15 minutes par coiffure, on faisait 45 clients dans la journée, et plus jamais je veux faire ça. C'est plus mon but. C'est pas pour ça que je suis là.
Et tu maquilles aussi sur cet événement. Alors là, pour le coup, tu maquilles à la chaîne. Est-ce que tu as le temps, au-delà de les rendre beaux, toutes ces personnes, de discuter vite fait avec eux?
Ah bah oui, clairement. Clairement, c'est un petit moment de... En fait, je commence toujours par demander quelle couleur ils ont envie. En fait, c'est toujours de l'abstrait. Je montre aucune photo. C'est moi qui partage mon envie, mais avec leur choix personnel. Le maquillage, c'est juste c'est mon petit côté artiste. J'adore l'art éphémère. J'aime pas m'implanter trop.
Voilà, donc si on veut voir ton art éphémère, il faut venir se faire maquiller. Voilà, et regarder tous les autres. Du coup, si on faut pas qu'on te fasse trop de pub, on va pas en faire. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre? Une question que je te pose pas.
Je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci à Marie et à Vanessa d'avoir eu cet élan de dingue. Elles sont parties, elles se sont enflammées et c'est grâce à elles qu'on est là. Et ça, je voudrais vraiment leur dire merci et bravo d'avoir osé et de nous offrir ça. Parce que c'est un cadeau, vraiment.
Est-ce que tu voudrais me suggérer une musique?
Oh oui, Fakir. Chakra. Chakra de Fakir. C'est de l'électro-tribal. Et c'est... Je pourrais vraiment maquiller sur ce... sur cette musique. Ça vaudrait le coup de le mettre, tiens.
Merci Isa.
Avec plaisir, merci à toi.